Le dialogue entre Congolais à prison avec Alain Héron de la présentation.
Bonsoir, fin du processus de révisitation des contrats miniers en RDC. Selon les ministres des Mines, ce processus va rapporter plus de 300 millions de dollars à l'État congolais avant le début de l'exploitation. Comment analyser ce résultat? Le secteur minier doit-il rester le secteur clé de l'économie congolaise? Trois invités prennent part à ce débat. Willy Kalengai, analyste économique et directeur du magazine Géopolis, spécialisé dans le traitement des questions minières, il est avec nous dans ce studio. Bonsoir Willy.
Bonsoir.
Professeur Kadengele, il enseigne l'économie dans plusieurs universités de la RDC. Professeur, vous êtes en ligne, bonsoir.
Bonsoir, c'est les journalistes.
Hubert Chiswaka, chercheur chargé de la RDC à l'ONG sud-africaine OCISA, également en ligne. Bonsoir Hubert. Voilà, il va nous rejoindre.
Bonsoir.
Ah, voilà, il est en ligne, Hubert. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le processus de revisitation des contrats miniers est arrivé à son terme après presque 2 ans et demi de travail. C'est le ministre des Mines qui l'a annoncé dans une conférence de presse qu'il a animée samedi dernier ici à Kinshasa. Martin Kabouéloulou révèle qu'aucun contrat n'est jugé viable sur les 57 consultés. 37 sont à renégocier et 20 autres à résilier carrément. Il ajoute par ailleurs que la revisitation des contrats miniers va rapporter plus de 300 millions de dollars américains à l'État congolais comme caution avant le début de l'exploitation. Plus d'explications avec José Deschartes-Minga.
La commission de révisitation des contrats et conventions miniers avait la mission d'examiner les contrats et leur impact sur le développement national. Au total, 57 contrats et 6 conventions minières ont été révisités. La majeure partie entre des tiers et l'État congolais, représentés par la GECAMINE, l'OKIMO, la SAKIMA et la SODIMCO. À l'issue de la première phase de revisitation, aucun contrat n'a été jugé viable, tandis que 37 étaient à renégocier et 20 autres à résilier carrément. Après tout le processus, presque la majorité des contrats ont été revisités et renégociés. Selon le ministre de Mines, la RDC va bénéficier de près de 315 millions de dollars, cela en termes de droits superficiels et de pas de porte. Martin Kabouéloulou ajoute que la revisitation a permis à l'État de déterminer les réserves des minerais dans les concessions concernées. En plus, les contractants sont obligés de se soumettre uniquement à la législation congolaise et à la construction des infrastructures sociales de base. À ce jour, le gouvernement congolais ne s'est pas encore évalué en termes chiffrés combien les L'État et le peuple congolais ont perdu dans tous ces contrats que tout le monde s'accorde à qualifier de léonin.
Professeur Kabengele, je rappelle que vous enseignez l'économie dans plusieurs universités de la RDC. Comment avez-vous accueilli la fin de ce processus de révisitation des contrats miniers?
Merci, c'est professeur Kabengele Digwe. Je suis chef de département de relations internationales à l'université de Kinshasa. En ce qui concerne les contrats miniers, j'ai accueilli avec beaucoup de joie le processus de révisitation de ces contrats, dans la mesure où, en économie internationale, la croissance économique est fonction du taux des investissements. Et les contrats, là, sont des préludes, n'est-ce pas, des investissements qui seraient très importants pour le développement économique national. Mais lorsque un contrat n'a aucun impact positif sur la croissance économique, sur l'amélioration du niveau de vie de la population, ce contrat n'est pas bénéfique au développement économique du pays. Et révisiter un tel contrat est une bonne chose parce que cette révisitation peut permettre à l'État de gagner, n'est-ce pas, des moyens financiers pouvant être affectés au développement des autres secteurs de la vie économique nationale. Donc, il faut révisiter les contrats de façon à les orienter vers, n'est-ce pas, la croissance économique et l'amélioration du niveau de vie de la population congolaise.
Merci au professeur Hubert Chiswaka. Vous êtes chercheur chargé de la RDC à l'ONG sud-africaine OCISA. On le sait, OCISA a beaucoup soutenu ce processus de révisitation des contrats miniers. Comment avez-vous reçu les résultats annoncés par le gouvernement?
Merci beaucoup.
Merci d'abord de rappeler que nous devons soutenir, nous devons même appuyer les autres organisations à suivre de près le processus. C'est que, à l'heure actuelle, nous, en tant que partenaires de plusieurs organisations de la société civile, du gouvernement et du Parlement, et notre appréciation est quelque peu relative parce que nous soutenons différents partenaires à entrer en discussion. À l'heure actuelle, c'est que nous sommes satisfaits du fait que le dossier de discussion des contrats miniers soit une affaire publique, ce n'est plus l'affaire de quelques personnes au gouvernement. Nous sommes satisfaits pour ça. Mais quant au résultat, ça, il faudrait que les questions vont selon les partenaires. Et il y a des partenaires privés qui ne sont pas satisfaits du résultat actuel. Nous encourageons à les suivre. Et nous avons aussi des ONG qui ne sont pas non plus satisfaits, qui ont une réunion demain à Kinshasa. Là, nous encourageons aussi à poursuivre les discussions. Et de l'autre, le gouvernement qui paraît être satisfait des résultats actuels, bon, et nous attendons en fait que le gouvernement dise un peu, ils ont analysé combien de contrats sont satisfaisants et ça nous donne quel chiffre qu'on a gagné, et puis on pourra comparer avec le rapport du Sénat qui plutôt nous a donné un tableau négatif. Donc à l'heure actuelle, notre fondation est satisfaite du fait que c'est un débat public, ce n'est plus un tabou, et à l'issue de ce débat, nous pouvons avoir les résultats positifs des idées de plusieurs personnes.
Willy Kalingaï, vous êtes analyste économique et directeur du magazine Géopolis, spécialisé dans le traitement des questions minières. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle?
De la fin de la clôture de la révélation, mon sentiment est assez mitigé.
Pourquoi?
Parce que, tout en ayant soutenu effectivement cette révisitation de contrats miniers, j'ai quand même été malheureusement angoissé par le temps que cela a duré. 3 ans pour révisiter 60 contrats, c'est extrêmement long, ça fait 3 années, c'est 3 exercices budgétaires. 3 années que ces différents partenaires, différents contrats ont été pratiquement en hibernation, ne pouvant ni contracter de nouveaux investissements, ni travailler sur le terrain. 3 ans, c'est énorme pour pouvoir faire un travail pour réajuster, parce que pour mettre en place un contrat, on n'a pas fait 3 ans, pour le révisiter, malheureusement, nous venons de faire 3 ans. Et encore mitigé parce que la deuxième raison, c'est que qu'est-ce qui avait motivé, qu'est-ce qui était l'opportunité, le contexte de l'époque. Il fallait profiter de l'embellie des cours d'échange sur les marchés et surtout des prix et des métaux, le cuivre et le cobalt. Nous avions atteint la tonne à 8 000 $ la tonne de cuivre. À ce moment-là, il y avait moyen, il y avait un boom minier. C'est à cette période-là qu'il fallait absolument révisiter et permettre à l'État congolais de profiter de cette situation du marché. Aujourd'hui, cette révisitation a été frappée dans sa durée par la crise mondiale, au point que les espérances, c'est que l'État va gagner aujourd'hui après la révisitation et c'est que l'État gagne avant la révisitation, les deux chiffres à comparer, malheureusement, donnent la faveur avant la révisitation. C'est pourquoi ici, mon sentiment est mitigé, parce que le résultat obtenu, à mon sens, aurait pu être obtenu autrement sans que l'on puisse perdre 3 années.
Donc, si je vous comprends, le temps était trop long et n'a pas permis l'opportunité de la révisitation.
Extrêmement long, suffisamment utilisé pour, comme l'a dit tout à l'heure Hubert Kiswaka, je salue au passage, le temps a été utilisé pour rendre opaques les procédures. Les débats n'étaient pas publics. Les informations par rapport à ce qui était les termes de référence à la révisitation, à part le décret, l'arrêté du ministre qui convoquait la commission des révisitations, c'est à peine que nous sachions, nous avions su ce qui était vraiment reproché aux entreprises et ce qui était reproché à ces différents contrats. Nous l'avons appris peut-être après, quand le gouvernement s'est prononcé le 4 août, je crois, pour décider de 6 contrats qui restaient et comment il allait se comporter. Mais pour le reste, le temps n'a pas été utilisé de manière efficiente pour que le contexte économique soit favorable aux résultats actuels. Si je peux encore terminer mon troisième niveau de frustration, c'est la notion de chiffres. Hein, vous avez annoncé, nous sommes dans un pays où la notion de chiffres n'est pas encore une culture partagée par tous. Alors 300 millions, c'est beaucoup. 300 millions, c'est rien. Tout dépend de l'angle de perception que l'on a par rapport aux chiffres.
Vert à moitié plein, à moitié...
Oui, tout dépend de ce que l'on veut. À partir du moment où il n'y avait rien avant, si vous amenez 300 millions dans un pays comme le nôtre, ça, c'est une très bonne chose. Mais quand on regarde ces 300 millions par rapport au rapport du Sénat, qui parlait des 450 millions de pertes de l'État par rapport à la manière dont les systèmes économiques liés aux mines étaient en train de se construire, donc les 300 millions deviennent malheureusement un chiffre de consolation, maigre consolation.
Professeur Kabengibe, vous venez de suivre Willy Kalinga, il terminait par la notion de chiffre insignifiant par rapport au rapport du Sénat, le contexte a évolué, le temps était trop long, il y a même Claver Kaassa de Goma, cet auditeur qui dit, pourquoi avoir attendu 3 ans, combien de temps prendront les renégociations, quelles sont les sanctions pour les 20 qui continuent à exploiter les mines, ces résultats hâtifs et ils donnent des sommes approximatives pour masquer on ne sait quelle réalité, alors que nous ne gagnons rien dedans.
Merci beaucoup, j'ai bien suivi Willy Kalingaï. Il y a plus de peur que de mal. Pourquoi ? Parce que le temps. En économie, n'est-ce pas, les fluctuations économiques sont analysées en termes de période. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises. Ainsi, nous disons que l'activité économique dans un pays, n'est-ce pas, évolue en dents de scie. Alors, si on constate qu'un contrat, n'est-ce pas, n'est pas bénéfique au développement économique national et qu'il faille le revisiter, il ne faut pas poser la question du temps, il faut le revisiter. Parce que mieux vaut tard que jamais que de continuer à compter sur des contrats qui ne profitent pas à la République, il faut les revisiter. Sous cet angle, je soutiens les processus de revisitation de contrats parce que d'abord, ce processus a comme sous-bassement le courage républicain. C'est-à-dire, on accepte que certains contrats signés ne sont pas bénéfiques au développement économique national et il faut qu'on les revisite.
N'est-ce pas,
décourager le processus au motif que il y a la conjoncture économique internationale qui n'est pas favorable. D'abord, cette question-là que Willy soulève, c'est une question qui doit être posée autrement. Est-ce qu'il faut continuer à compter sur le secteur minier pour le développement économique national?
C'est effectivement la deuxième partie de notre émission.
Pardon?
Ce sera la deuxième partie de notre émission.
C'est la question qu'il pose maintenant, c'est la question que nous allons décortiquer dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'instant, il est question de dire, est-ce qu'il est bon ou mauvais de revisiter des contrats qui ne profitent pas à la République? Moi, j'ai dit d'emblée qu'il est bon et encourageant de revisiter, n'est-ce pas, les contrats qui ne profitent pas à la République.
Professeur Kabengele, quand la commission sénatoriale Moutamba Dibwe annonce près de 450 millions de pertes par an et que le gouvernement parle de 315 millions, ces chiffres sont-ils réalistes?
Non, voilà. Ça relève d'un autre enseignement que nous dispensons à l'université, les cours de, en dehors du cours de fluctuation et croissance économique, mais les cours d'évaluation des projets d'investissement. Lorsque la commission Moutamba Dibwe parle de 450 millions, c'est sur base d'une évaluation et sur base d'un calcul. Parce que lorsqu'on évalue par exemple un projet d'investissement, on peut utiliser la méthode de l'UNIDI, on peut utiliser la méthode de la Banque mondiale, on peut utiliser telle ou telle méthode d'approche pour évaluer un contrat. Et on peut arriver à des chiffres, et ces chiffres ne peuvent pas être jugés comme étant propices. Parole d'évangile, d'office, des chiffres réels. Ce sont des chiffres approximatifs. Alors, quand on fait l'évaluation, qu'elle soit économique ou qu'elle soit financière, n'est-ce pas, les chiffres auxquels on aboutit sont des chiffres, n'est-ce pas, qui traduisent les tendances réelles. cela revient à dire que 450 millions de la commission Mutamba et 300 millions trouvés par la commission gouvernementale, ce sont des chiffres approximatifs sur lesquels on ne peut même pas déjà débattre. Ce sont des chiffres qui orientent, orientatifs, et qui peuvent nous dire que nous sommes dans la bonne voie et quel sera le niveau de rentabilité de tel ou tel contrat.
Merci.
Alors, nous
merci
ne pouvons pas aujourd'hui nous baser sur cette notion, n'est-ce pas, de 450 ou 300 millions, n'est-ce pas, dans l'ensemble, 450 et 300 millions sont positifs.
Voilà.
Parce que là, il n'y a pas une croissance négative ou un chiffre indicatif, n'est-ce pas, négatif, que l'on dirait non. Dans telle évaluation, ça devient en économie dangereux lorsque une commission trouve, par exemple, moins 200 millions et une autre trouve plus 500 millions.
Merci.
Mais lorsque les deux évaluations aboutissent à des chiffres positifs, là, c'est encourageant.
Merci, professeur. Hubert Chisoka, vous venez de suivre le professeur Kabengele, plus qu'optimiste, hein, mais il y a des auditeurs qui ne le sont pas autant que lui. Raphaël Luaba, de Lubumbashi au Katanga, pas d'espoir dans cette révisitation, si ce n'est qu'un cercle vicieux, étant donné que presque tous les carrés miniers ont été privatisés. Emmanuel de Kananga au Kasai Occidental, le peuple n'a rien à gagner dans la révisitation de ces contrats miniers, nous leur fixons rendez-vous en 2011. Apollinaire Kamwanga de Kananga au Kasai Occidental encore, je voudrais savoir pourquoi l'État congolais veut nous distraire après avoir vendu presque tous les carrés miniers et se prononce sur la fin des contrats miniers. Hubert Chisoka. Ah, voilà, la réalisation me signale que nous avons quelques problèmes avec la ligne d'Hubert Chisoka, Willy Kalenga, et comment vous réagissez au professeur Kabengele et à tous ces auditeurs qui sont très sceptiques, hein?
Mais je crois qu'il y a, même, tout en respectant la science bien diffuse du professeur Kabengele, les deux chiffres sont, il faut le comprendre dans les contextes. Les 300 millions de ministres à parler, c'est un engagement, pas de porte et royalty. Donc ce n'est pas une évaluation approximative, c'est des droits que l'État pense avoir récupérés d'après la révisitation du contrat. Après avoir révisé ce contrat, les différentes parties se sont engagées, certaines parties à libérer des pas de porte et à payer les royalty à la GECAMINE et aux partenaires. Donc il y a d'abord les 300 millions, 77 millions de dollars qui sont des engagements clairs que les partenaires de la révisitation ont accepté. Bon, les 450 millions du Sénat, c'est une évaluation des pertes. C'est que l'État pouvait gagner, mais ne gagne pas. Vous voyez, les deux chiffres sont quand même à considérer dans deux contextes différents. Ce n'est pas deux chiffres qui se suivent, l'un plus petit et l'autre plus grand, mais le chiffre du Sénat est quand même le chiffre négatif, parce que le Sénat dit, voilà la fraude, voilà la mise en place du système économique des mines. Ce système nous a malheureusement cassé. Nous perdons chaque année 450 millions de dollars.
Et vous venez de suivre quelques réactions des auditeurs qui sont très sceptiques. J'en prends une autre réaction. Joseph Kikuni de Goma au Nord Kivu. Révisiter, c'est bon et encourageant. Est-ce qu'après une renégociation et résiliation de ces contrats, y aura-t-il un impact visible sur la vie quotidienne des Congolais? Oui, les Kalingai.
Bon, je crois qu'il ne faut pas attendre, et je suis d'accord avec le professeur sur cette question, il ne faut pas attendre des opérations minières, des actions sociales totalement. Les mines, c'est quand même une activité économique d'exploitation et de transformation de nos ressources. Il y a des investisseurs qui viennent avec des fonds importants dans notre pays et qui demandent à s'insérer dans notre système. Ils exploitent nos ressources pour leur bénéfice, pour le profit. Et l'État partenaire à ces contrats gagne au passage et l'État est obligé, par rapport à ce qu'il gagne, par rapport aux engagements, à faire le bonheur de son peuple. Nous devons donc nous entendre que nous sommes en présence d'un partenariat qui a commencé à se mitiger, donc des investisseurs qui ne viennent pas faire l'armée du salut dans notre pays, qui viennent pour faire du bénéfice, et de l'autre côté, il y a l'État qui doit faire le social, qui doit se battre pour que ce qu'il engrange de ses ressources puisse servir à la nation. Est-ce que la réinvestissement va servir? J'ai dit oui, dans une certaine mesure. On ne peut pas nier que le fait que certains pourcentages, les participations de la GECAMINE aient pu augmenter dans plusieurs partenariats, quand vous suivez toutes les contrats qui ont été renégociés, la Gécamines a quand même augmenté de participation en pourcentage. On ne peut pas nier, par exemple, que les royalties qui vont être versées, certains sur le chiffre d'affaires, d'autres sur les dividendes simplement, de 1%, de 2%, c'est quand même des avancées. C'est des choses qui n'existaient pas. L'honnêteté intellectuelle m'oblige à reconnaître que l'équipe qui a travaillé, a eu quand même des résultats. Bon, donc il y aura d'une manière ou d'une autre un impact. Mais je vous ai dit, je le répète, est-ce qu'il fallait 3 ans pour arriver à comprendre que la Gécamines pouvait passer de 17 à 20% par exemple dans un contrat? C'est ça la grande question. Pour moi, la question du temps est essentielle parce que nous avons échappé malheureusement à l'opportunité du boom minier qui existait en 2006, en 2007, parce qu'on était là dans les négociations.
Hubert, Chiswaka, vous êtes de nouveau en ligne?
Oui, je suis revenu en ligne après une interruption tout à l'heure.
Voilà, il y a Guy Attalo de Boutan, province orientale, qui dit « L'analyse est difficile à comprendre car on nous parle de la fin du processus de révisitation des contrats miniers. Or, 37 sont à renégocier, c'est-à-dire que le processus est en cours et non à sa fin. Y a-t-il confusion finalement ?» demande-t-il.
Bon, peut-être qu'il faudrait aider nos auditeurs à comprendre la vie de contrat est toujours objet de négociation, comme le professeur Kadengele venait de le dire. Mais ici, nous étions dans une circonstance où c'était un groupe de contrats qui ont été soumis à la registration d'autorité par l'État. Et dans ce résultat, qu'on ne pourra plus y revenir, on pourra de manière particulière toucher à notre contrat. Alors, vous souviendrez, pendant que nous tentons de la réussite, la soixantaine de contrats, on était en train de signer le contrat chinois. Donc, c'est pour dire que cela ne veut pas dire qu'on ne parlera plus de contrats chinois, plutôt de l'explication des contrats. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné dans cette révisitation? Le débat est un peu, si je peux me permettre, est un peu biaisé, dans ce sens qu'on essaie de faire une comparaison du temps mis dans la renégociation et le résultat du chiffre qui s'est avancé. C'est une approche relative. De mon côté, je pourrais plutôt demander au gouvernement qui a révisé tous les contrats de publier un tableau dans lequel on pourra voir quel était l'état initial au départ de la négociation, pourquoi l'État n'était pas content de ces contrats, on a vu qu'un chiffre. À l'heure actuelle, les 60 contrats, on a renégocié chaque contrat, nous sommes arrivés à combien? Parce que vous vous souviendrez qu'on a publié tous les contrats sur le site du ministère, donc on peut aussi publier le résultat. Comme ça, la population pourra savoir qu'est-ce que nous avons gagné. Vous vous souviendrez aussi que la semaine passée, les ONG, d'une part, avaient protesté contre la façon dont le même gouvernement avait négocié le problème des motocross mining dans la province orientale, où on avait procédé pour décider de 20% à l'entreprise. Et puis même hier ou avant-hier, il y a aussi qui a protesté contre la façon dont le gouvernement a clôturé le contrat de PNP. Donc, de manière générale, il y a le résultat un peu relativisé. La population doit comprendre que c'est la vie des entreprises. Les partenaires peuvent toujours revenir à la discussion. Mais l'avantage de cette discussion, c'est que il y a intérêt public maintenant et qu'il y aura moins de magouilles, si on peut le dire, et il y aura moins d'intérêt individuel parce que ce suffit par les médias, ce suffit par des groupes de pression.
Professeur Kabengele, Badi Banga de Benyonor qui vous dit « L'argent du pas de porte est semblable au Kifunga Mulango, c'est en swahili traduit près d'autres qu'on donne pour marier une fille, mais si la fille se conduit mal, on l'abandonne pour aller chercher ailleurs. Pareillement, si nous les Congolais nous conduisons mal avec des tracasseries à l'endroit de ces entreprises, ces sociétés iront investir ailleurs alors que nous avons besoin d'elles maintenant. »
Oui. Bon, je voudrais tout simplement dire, voilà, que d'abord avec Willy Kalengaï, que je suis d'accord avec lui lorsqu'il dit que on a perdu 3 ans. C'est bien. Et moi, j'ai dit, oui, on a perdu, mais il faut prendre quelque part le courage, n'est-ce pas, de dire non, tel contrat ne profite pas à la République, ne permet pas au gouvernement d'atteindre ses objectifs macro- et microéconomiques. Dans ces conditions, il faut révisiter. Et je suis d'accord qu'on a perdu du temps, mais mieux vaut tard que jamais. Parce que quelque part, il ne faut pas toujours rester pessimiste, il faut évoluer pour être un peu optimiste et donner, n'est-ce pas, la chance au gouvernement de retenir sous certains contrats qu'il ne juge pas être positifs au plan du développement économique national. Pour notre auditeur qui dit qu'il faut apprivoiser les investisseurs, tout ça, mais je voudrais tout simplement lui dire que c'est vrai, en économie du développement. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas.
Vous êtes en ligne, professeur, allez-y, on va suivre.
En économie du développement, la croissance économique est fonction du taux des investissements. Et il ne peut pas y avoir développement économique sans croissance économique. Mais il peut y avoir de croissance économique sans développement économique.
Concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement, il faut que dans chaque pays, on puisse, n'est-ce pas, attirer les investissements, car c'est du taux des investissements qui aura la croissance économique qui est la condition suffisante et nécessaire pour qu'il y ait développement économique. Mais en attirant les investissements, n'est-ce pas, les investisseurs ne viennent pas, comme l'a dit Willy Kalengaï, n'est-ce pas, vous faites des cadeaux, ce n'est pas une armée du salut. Les investisseurs viennent pour gagner et ils comptent sur la rentabilité financière, n'est-ce pas, de tout projet d'investissement. Tandis que l'État qui reçoit l'investisseur doit, dans son calcul économique, compter sur, n'est-ce pas, la rentabilité économique, c'est-à-dire les effets, n'est-ce pas, multiplicateurs sur le plan social. Cela revient à dire que les investisseurs, tout en bien les attirant, par un code d'investissement alléchant, il faut aussi savoir les contrôler. Parce qu'ils se comportent comme toutes les sociétés multinationales, toutes les entreprises multinationales. Elles sont bonnes au développement, mais il faut savoir les contrôler. Donc lorsqu'on a besoin des investissements, c'est bien, il faut les encourager. Mais lorsqu'on constate que ces investissements-là ne profitent pas à la République, il faut les renégocier de façon à les orienter, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, les effets multiplicateurs induits sur le développement. Donc, on ne peut pas aujourd'hui encourager les investisseurs qui viennent que pour appauvrir.
Merci,
il faut que l'État, chaque fois, c'est pour cela que en matière d'investissement ou en matière d'évaluation de projets, il y a des évaluations post-ante et des évaluations ex-ante.
Merci, professeur.
Après et avant.
Merci, professeur.
À tout moment, il faut toujours voir si tel projet, tel contrat est bénéfique et s'il n'est pas bénéfique, directement songer à le revisiter, l'adapter, etc. Parce que il y a l'État qui vise le bien-être de la population.
Merci,
et il y a
professeur.
L'investisseur qui vise la rentabilité financière.
Merci,
en conséquence, les deux sont des partenaires qui doivent toujours négocier dans les biens de tous.
Merci, professeur. Vous êtes encore avec nous dans cette émission, Willy Kalenga. Il y a beaucoup de réactions à ce sujet. Hein. L'honorable Capen Dakapen, député provincial élu de Kolwezi au Katanga, lui, pense que l'État congolais pouvait gagner plus en lieu et place de 315 millions de dollars annoncés par le ministre des Mines. Pour lui, les négociateurs ont privilégié des intérêts des particuliers plutôt que ceux de la nation.
Il y a peut-être raison, mais vous savez, c'est à partir du moment où nous sommes à la fin d'un processus, il nous faudra entrer en contact direct avec toutes les informations pour évaluer les comportements des uns et des autres. Il n'est pas aisé, effectivement, de déterminer à cet instant précis du débat quel a été l'intérêt, et particulier l'intérêt des privés. Mais je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Ida Tshisoka par rapport à cette révisitation et par rapport au mécontentement des uns et des autres. C'est vrai que c'est quand même un atterrissage forcé.
La fin de la révisitation du contrat se termine avec, malheureusement, les deux plus grands projets miniers dans notre pays n'ont pas abouti à des résultats positifs. Il faut connaître que Tenke Fungurume n'a pas été complètement achevé. Il faut connaître que KMT a été résilié.
Sans vous couper la parole, il y a Joseph Mwindi de Lubumbashi, effectivement, qui demande Tenke Fungurume se trouve dans quel cas, d'autant plus que cette entreprise était à couteau tiré dans la révisitation de son contrat minier avec le gouvernement congolais.
Donc, c'est cette question qui reste à être précisé parce que le gouvernement n'a pas écrit à Tenke Fungurume. Les informations que j'ai, les négociations ne se sont pas clôturées. Mais c'est une situation très désavantageuse pour cette entreprise, cette compagnie. C'est quand même le plus grand projet minier en termes d'investissement dans notre pays. Nous sommes à peu près à $1 milliard d'investissement. Donc si une entreprise qui est en révisitation n'a pas conclu, soit par une résiliation, soit par une renégociation, soit par une augmentation des parts. Si c'est encore une situation floue, l'entreprise est paralysée. C'est comme si on lui avait injecté un produit paralysant. L'entreprise ne peut ni prendre des fonds sur la place boursière mondiale, ni faire des investissements. Le gouvernement, malheureusement, n'a pas été suffisamment jusqu'au bout de cette logique pour dire à Tenke Fungurume, nous résilions ou nous continuons. En ce qui concerne KMT, nous sommes malheureusement en train de lire dans la presse et d'entendre passer par là que nous avons une menace d'un arbitrage international. C'est des questions importantes qu'il faille froidement, sans passion, tout en acceptant le courage que nous avons eu de dire non, et là je retiens la phrase clé du professeur Gabengele, dire non à ce qui ne marche pas, mais en même temps nous devons avoir la force d'assumer cette conséquence-là si jamais ces deux entreprises qui sont les plus gros projets les deux, les plus gros projets miniers dans notre pays, les deux grands producteurs du cuivre dans notre pays à cet instant précis, c'est Tenke Fungurume et le groupe SQM. Donc, si ces deux-là, malheureusement, vont en arbitrage, nous sommes encore devant des grandes difficultés et nous craignons que tous les pas de porte qui ont été des promesses faites par les différentes entreprises, tous les pas de porte ne soient demain, malheureusement, la cible des fonds vautours. J'en parlerai peut-être aussi à une question précise. C'est une crainte réelle que je formule personnellement à cet instant précis de la fin de la révisitation.
Brièvement, le gouvernement congolais est-il en train de tâtonner?
Je ne sais pas. Je suis embarrassé pour répondre à cette question, mais je pense que le gouvernement, par rapport à ces deux contrats, le gouvernement n'a pas tâtonné parce qu'ils ont écrit à KMT, on a résilié ce contrat, et je vois qu'il n'y a pas de tâtonnement, mais en même temps, de l'autre côté, Tenke Fungurume, je ne sais pas quelle est la décision finale. Le contrat, la résiliation du contrat s'effectue sans que l'on ait conclu ce dossier-là. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Et je retiens que, effectivement, tout contrat est sujet à des négociations. Peut-être qu'en dépolitisant la question, peut-être qu'en délocalisant les propos, peut-être qu'en choisissant d'autres acteurs, ces deux grands contrats pourront retrouver les voies d'une négociation profitable à toutes les parties.
Hubert Chiswaka, avant d'aborder la deuxième partie de cette émission, comment vous réagissez aux propos de Willy Kalingai concernant les deux grands projets d'investissement dans le secteur minier, Tenke Fungurume Mining et KMT? Ah, décidément, nous avons encore perdu Hubert Chiswaka. Deuxième partie de cette émission, le secteur minier doit-il rester le seul ou le secteur clé de l'économie congolaise? Il y a beaucoup d'auditeurs qui ont fait leur proposition à cet effet. C'est le cas de Jacques Asungé de Bukavu, sud Kivu. Le secteur minier reste le poumon de l'économie congolaise, ainsi il doit être traité avec attention, prudence et clairvoyance. Robert Baumé de Bukavu, sud Kivu. Étant épuisables, les mines ne doivent pas demeurer le seul secteur clé de l'économie en RDC. Alors pourquoi ne pas aussi focaliser toute l'attention sur l'agriculture qui, elle, est inépuisable? Professeur Kabengele, vous aviez déjà commencé à en parler lorsqu'on était dans la première partie.
Merci beaucoup. Vous savez, j'enseigne la géographie économique de la République démocratique du Congo en premier graduat de relations internationales. J'ai même publié un livre en deux tomes sur la question. Et dans ce livre, j'ai dit que c'est très dangereux pour un pays de compter sur un seul secteur pour son développement. Si la République démocratique du Congo continue à compter sur le secteur minier, et que les produits miniers qui sont exportés les sont dans un état de traitement primaire, ils sont des matières premières tout simplement, ils ne sont pas des produits finis, alors que des matières premières sur le plan du marché international sont soumises à des fortes fluctuations des prix. Donc, dépendre d'un seul secteur, le secteur minier, c'est en fait faire dépendre toute l'économie nationale aux fluctuations des prix de ces matières premières. Vous voyez, quand on a parlé par exemple de contrats chinois, la tonne métrique cuivre était négociée à 9 000 dollars sur le marché international. Aujourd'hui, avec la crise financière internationale, la tonne se négocie à 3 000, voire moins de 3 000 dollars, n'est-ce pas, américains. Ce qui fait que toute l'économie congolaise, particulièrement au Katanga, qui y avait beaucoup d'entreprises minières, on ressent très vite, n'est-ce pas, les difficultés liées à l'économie internationale. On ressent la dépendance de notre économie aux fluctuations des cours, n'est-ce pas, des matières premières que nous exportons, à savoir les produits miniers. Cela me pousse à vous dire qu'il ne faut pas que l'on continue à compter sur le secteur minier pour le développement de la République démocratique du Congo. Et même les produits miniers que nous exportons, nous les sont dans un état tel que les prix ne peuvent pas être avantageux pour le développement économique national et même pour notre commerce extérieur. Nous devons arriver, n'est-ce pas, à transformer certaines matières premières sur place et substituer certaines importations par la production nationale. Exemple, nous produisons le cuivre. En produisant le cuivre, nous ne pouvons pas être importateurs des câbles électriques parce que les câbles électriques sont fabriqués à partir du cuivre. Donc, il faut impérativement, n'est-ce pas, travailler notre cuivre, produire des câbles électriques et exporter des câbles électriques. Or, les câbles électriques ont une valeur ajoutée supérieure, n'est-ce pas, à la tonne métrique cuivre exportée. Donc, merci, si nous voulons tirer avantage de nos exportations minières, nous devons, n'est-ce pas, ajouter la valeur à ce que nous exportons, c'est-à-dire nous devons avoir une industrialisation en marche, capable de transformer nos matières premières de façon à nous permettre d'exporter des produits non pondéreux, mais à forte valeur ajoutée.
Merci, professeur.
En ce qui concerne, quels sont les autres secteurs ? Je termine rapidement.
Résumez-vous, je vous
en prie. En dehors du secteur minier, nous pouvons, comme l'auditeur l'a dit tout à l'heure, développer l'agriculture. L'agriculture ne peut être facteur de développement que si elle parvient à produire un surplus de production pour le marché. Pour ce faire, il faut impérativement mécaniser et moderniser l'agriculture.
Merci,
mais on
ne doit
pas compter que sur l'agriculture.
Merci, professeur. Permettez-moi de vous arrêter à ce niveau. Il y a Willy Kalengai qui devrait réagir aussi. Willy, le prof vient de parler de l'agriculture. Il y a Maître Juvenal de Goma qui dit « Je pense que l'agriculture devrait être considérée comme le pilier de notre économie pour assurer notamment la sécurité alimentaire à la population. »
Bon, je suis pas spécialiste malheureusement des matières de substitution, mais je voudrais quand même que nous puissions regarder comment le monde fonctionne aujourd'hui. Nous allons voir effectivement que le fait de se focaliser sur la production des ressources naturelles, elle ne peut pas être toutes les ressources naturelles sont sujettes à fluctuation. Vous savez que même les produits agricoles peuvent un jour faire il y a eu une crise alimentaire, n'oubliez pas. Je pense que notre pays, il est temps vraiment que nous inscrivons dans les tableaux des ressources naturelles du pays la matière grise. C'est une question de débat, je pourrais peut-être un jour en parler dans d'autres circonstances, mais j'ai dit aujourd'hui, ce qui manque effectivement, c'est cette matière grise, ce sont les intelligences congolaises, c'est l'homme congolais qui n'est pas suffisamment préparé pour affronter les défis de son développement.
Le Congo a beaucoup d'intellectuels. Qu'est-ce qu'on dit concrètement pour cela?
Mais je vous ai dit, regardez simplement cette question de révélation dont nous parlons. Les temps que ça a pris, c'est aussi une question d'expertise. Regardez regardez simplement tous les, un pays comme la Tunisie qui n'a pas de ressources naturelles. Les Japon, la Suisse n'ont pas de ressources naturelles. Les ressources les plus importantes qui soutiennent un développement, c'est la matière grise, c'est l'éducation, c'est la formation de l'homme. C'est ça qui va déterminer la valeur ajoutée à tout ce que nous allons faire. À partir du moment où nous allons quitter un secteur pour un autre, en répétant les mêmes difficultés que nous avons dans ce secteur-là, nous aurons des difficultés. Mais je ne jette pas l'enfant avec l'eau de son bain. Je reconnais effectivement qu'il faut muter vers d'autres secteurs, qu'il faut aller vers l'agriculture. Mais je me dis, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Aujourd'hui, le Congo a quoi? Le Congo a des ressources minières importantes. Le Congo a été quand même parmi, a été le premier producteur du cobalt dans le monde. Nous avons eu dans ce pays une entreprise qui a produit 400 000 tonnes de cuivre. Il ne faut pas oublier l'histoire. Ça a quand même été 1 milliard net de dollars par an que la Gécamines donnait au budget de l'État. Nous sommes arrivés, malheureusement, avec la chute de la Gécamines, à avoir 300 millions simplement de dollars du budget. Donc, il est d'abord question non seulement de refuser le secteur minier, mais de l'organiser, de le moraliser, de lui donner une dimension professionnelle essentielle. Je suis d'accord avec le professeur Kadenkan qui dit qu'il faut installer dans notre pays des industries de transformation. Mais ça, ce n'est pas le fait de ceux qui exploitent les mines. Ça, c'est une question gouvernementale, c'est une option de l'État.
Hubert Chiswaka, vous êtes de nouveau en ligne. On a des petits problèmes décidément avec votre ligne.
Oui, malheureusement, je suis pas interrompu. Je ne peux pas citer le réseau de communication aujourd'hui avec la RPC. Mais cependant, j'ai eu l'opportunité de revenir dans le débat. Et bien de choses sont passées. Et du temps où je prends, je pense que le grand problème avec notre pays, la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le problème d'un secteur par rapport à l'autre. Je pense qu'il est beaucoup plus question de gouvernance. Et c'est une question de gestion de ce que nous avons. Vous avez suivi les différents rapports. Et le plus récent, le rapport Mukamba, démontre la très mauvaise gestion des ressources que nous avons. On nous montre que c'est sa part du petit fonctionnaire et qui reçoit les papiers à distribuer pour élever les taxes jusqu'au gouvernement central. Si vous avez des agents qui fassent les statistiques, si vous avez des chefs au niveau du gouvernement central qui ne veulent pas redistribuer les revenus qui arrivent au niveau de la Banque centrale, si vous avez toute la démotivation possible, la corruption à tout niveau, on peut changer de terre, on peut même aller prendre le pétrole de l'Arabie Saoudite, on ne saura jamais se tirer d'affaires. Il faudra que nous puissions mettre un peu plus de moralité dans ce que nous faisons, que nous puissions avoir la bonne gouvernance, et que, alors à ce moment-là, on peut avoir le secteur minier, on peut avoir le secteur agricole, on peut avoir le secteur forestier, on pourra bien gérer, même si c'est très peu d'argent, on va bien le gérer. Mais si on a beaucoup d'argent, on le gère très mal, et on ne veut même pas tenir à ceux qui veulent, Adam, et on pourra bien crier que c'est le secteur, mais on n'ira nulle part.
Merci à Hubert Chiswaka. C'est aussi déjà votre conclusion. Willy Kalengai, en 15 secondes de votre conclusion.
Je suis heureux d'avoir participé à ce débat. Je pense que nous sommes dans un apprentissage d'une nouvelle culture économique, des négociations. Notre pays a un manque criant des négociateurs attitrés. Il faut former des Congolais, des dirigeants. Être dans un poste, ça ne suffit pas. Il faut que nous ayons des négociateurs. Quand il y a un gouvernement qui a besoin de négocier, il peut faire appel à des négociateurs attitrés.
Professeur Kabengele, je vous demande juste un mot en guise de conclusion.
Merci beaucoup. Je suis heureux d'avoir participé à ce débat. Mais je voudrais dire qu'en dehors de l'agriculture, parce que moi, je suis partisan de la diversification d'activités économiques. Outre les secteurs miniers, qui doit être davantage modernisé. Il y a les secteurs agricoles qu'il faut moderniser et mécaniser, mais il y a aussi, n'est-ce pas, les secteurs énergétiques. Nous sommes un pays capable de, sur le plan des hydrocarbures,
compter
parmi les grands producteurs du pétrole et grands producteurs d'électricité. Donc nous devons compter sur autres facteurs, même la gestion forestière.
Merci professeur, c'est par ici que nous terminons cette émission. Vous avez été des millions à nous suivre en FM, en ondes courtes et sur Internet. Cette émission a été réalisée par Thierry Nkouté, assisté de Samuel Kachak, mise en onde Dieudonné Nyangassa, coordination Martin Sebujangwe, présentation Alain Hirung. Restez avec nous sur Radio Okapi.